France Culture.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Politique, l'émission qui prend le temps chaque samedi de connaître un invité pour décrypter avec lui son parcours, son engagement et sa personnalité au rythme de l'actualité. Notre invité a le sens de l'humour et un parcours intimement lié à Internet. En 1979, bien avant l'arrivée des premiers modems à la maison, il sort diplômé de Supélec en génie informatique. Moins de 5 ans plus tard, 1984, la date est-elle anodine, il publie son premier livre, Software, la guerre douce, un thriller informatique en pleine guerre froide. Passé par l'école alsacienne et la prestigieuse prépa Louis le Grand, ce Parisien, fils du directeur au commissariat à l'énergie atomique Denis Breton, a alterné entre direction d'entreprise et vie politique. De sa première entreprise informatique qu'il fonde à 26 ans jusqu'à France Télécom, dont il prépare la privatisation de 2003 à 2005, et puis il entre comme ministre de l'économie et des finances au gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, qu'il a bien connu au conseil régional de Poitou-Charentes. Il a participé de près à la création du Futuroscope. Et puis Atos, le géant français de l'intelligence artificielle et des services informatiques aux entreprises qu'il dirige pendant 11 ans et qu'il emmène jusqu'au CAC 40 avant de quitter le groupe qui sera ensuite en difficulté. Direction la Commission européenne, il retrouve son dada et crée le DSA qui contraint les géants d'Internet à la régulation au point de se faire des ennemis, beaucoup d'ennemis. Avec Elon Musk, le bras de fer est viril, aussi bien dans les couloirs feutrés de Bruxelles qu'au grand jour, sur X qu'il n'a pas encore quitté. Mec lui lance parfois, le fondateur de Tesla, « Rendez-vous sur Mars », répond l'intéressé. Le DSA a été mis en œuvre, mais pour quel résultat? Comment l'Europe peut-elle faire face au conflit sur son flanc Est et l'arrivée de Donald Trump à l'Ouest? Il nous répondra. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous écouter. Comme chaque samedi, bon appétit, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Nous venons de vivre une sacrée semaine sur le front des géants de la tech et des réseaux sociaux. Thierry Breton, Mark Zuckerberg par exemple a annoncé ce 7 janvier la fin du fact-checking sur Meta et notamment Facebook, un programme qui s'appuyait sur 80 médias reconnus dans le monde. Les vérificateurs ont été trop orientés politiquement et ont participé à réduire la confiance, en particulier aux États-Unis. Dans une vidéo, il se dit prêt à travailler avec le président Trump pour faire reculer les gouvernements du monde entier qui s'en prennent aux entreprises américaines et poussent à une censure accru, c'est cool, a commenté Elon Musk. Comment le fondateur du DSA, le règlement européen sur les services numériques que vous êtes, réagit-il à cette annonce?
Tout d'abord, le DSA dont vous venez de parler, c'est pas la loi de Thierry Breton, vous me dites le fondateur. La loi européenne. C'est la loi de notre démocratie. Elle a été votée, et pardon, à une très large majorité, par le Parlement européen, c'est-à-dire par ceux qui représentent les 450 millions de citoyens européens, et par le Conseil européen, c'est-à-dire par les 27 États membres. C'est notre démocratie. Ce qu'on a voulu à travers le DSA, ce que j'ai voulu moi-même, j'étais le commissaire en charge notamment du numérique.
Vous l'avez beaucoup porté.
Oui, je l'ai porté et je l'ai même écrit avec mes équipes.
Vous l'incarnez même, j'ai envie
oui,
de
mais
dire.
Oui, et c'est normal, c'était mon travail. Mais évidemment, ensuite, il a été largement amendé. Je rends hommage à ceux qui ont fait ce travail. On a au Parlement européen des députés extraordinairement compétents. Je pense parmi les meilleurs au monde du reste. Sur ces questions du numérique, ils ont apporté leurs contributions, leurs amendements. C'est la loi désormais européenne. Ce n'est pas, et je le redis aussi, ce n'est pas du tout une loi qui censure la liberté de la parole. Et c'est un élément absolument cardinal pour nous en Europe. Du reste, si jamais on avait touché un cheveu de la liberté de parole, jamais on aurait eu une telle majorité au Parlement européen. En revanche, le DSA, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'intéresser à un point singulier, je dirais, du moment dans lequel nous sommes aujourd'hui, à travers l'âge des réseaux sociaux. Ce point singulier, c'est que les réseaux sociaux, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, permettent, au fond, à quiconque, à travers un message et par le biais d'algorithmes, d'amplifier massivement ce message en le modifiant éventuellement au fur et à mesure de son amplification pour en créer une viralité qui peut s'apparenter à un tsunami par rapport à une vague, et précisément avoir des impacts absolument massifs, déterrants pour certains, par rapport à nos règles de droit, notre démocratie, nous-mêmes, voire nos enfants. Et c'est cette spécificité technique que nous avons décidé de réguler et d'organiser. Alors maintenant, vous me posez une question sur l'évolution que l'on vit aujourd'hui. D'abord, elle s'inscrit dans quelle temporalité, cette évolution ? Dans une temporalité qui est singulière. Une fois tous les 4 ans, aux États-Unis, on a 100 jours un peu en lévitation. On est encore dans cette période de 100 jours. Je fais référence évidemment à l'élection américaine. Il y a un président élu, on la qualifie du reste de président élu, Donald Trump en l'occurrence. Il n'a aucun pouvoir pendant ces 100 jours, sauf celui de la parole. Alors, comme tous ses prédécesseurs, certains en usent, d'autres en abusent. Je vous laisse choisir le qualificatif que vous pensez approprié pour Donald Trump. Et puis derrière, vous avez le président sortant, qui voit évidemment son pouvoir décroître de jour en jour. Mais pendant cette période, généralement, évidemment, les uns et les autres se positionnent par rapport à la nouvelle administration et évidemment par rapport aux positions que l'on peut voir de Mark Zuckerberg et d'autres du reste géant de la tech, on voit bien ce revirement sur l'aile absolument magistral qu'ils sont en train d'effectuer, parce que la plupart d'entre eux étaient totalement contre l'élection de Donald Trump, pour démontrer que désormais, ils vont pouvoir coopérer avec la nouvelle administration. C'est comme ça qu'il faut lire évidemment ce qui se passe, mais il faut le nuancer et je suis prêt à le faire devant vous.
Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Désordre aussi des révolutions technologiques qui bouleversent nos habitudes, nos modes de vie, nos conceptions même de l'histoire. Désordre dans lequel les États menacent d'être dépassés par la puissance et la force de frappe d'entreprises privées, mais désordre en clair-obscur. Car ces innovations technologiques portent aussi résolument des innovations, des transformations de nos vies pour le meilleur, et du spatial à la biologie, des évolutions qui vont nous permettre de mieux faire.
Le président Emmanuel Macron, lundi 6 janvier, depuis l'Élysée, lors de la 30e conférence des ambassadeurs. Elon Musk a bien sûr répondu au président français sur X. Comme cette fois où Starmer a traité Donald Trump de raciste et a dit que le gouvernement britannique devrait tout faire pour l'arrêter, ou lorsque Starmer a envoyé des membres du Parti travailliste britannique faire campagne aux États-Unis contre le président Trump cette année. Vous, Thierry Breton, comment avez-vous perçu cette phrase dont on a beaucoup parlé cette semaine d'Emmanuel Macron ? Et c'est peut-être toute la difficulté pour l'Union européenne, faire la différence entre la liberté d'expression du citoyen Elon Musk et l'ingérence dont il ferait preuve avec son réseau social X.
Je trouve qu'elle est, appropriée en ce qui concerne, Elon Musk, même si je voudrais dire que je connais bien Elon Musk. Je l'ai connu profondément démocrate. Il a été l'un des soutiens fervents. D'abord, évidemment, de Barack Obama, puis un des financeurs de Joe Biden, jusqu'à ce que celui-ci décide de ne pas l'inviter à une réunion où il avait convié les constructeurs automobiles, compte tenu du fait que Tesla, il considérait que c'était plus une entreprise chinoise qu'américaine, compte tenu de sa dépendance à la Chine. Donc, Elon Musk, il a des opinions changeantes. Et ça fait qu'on a l'impression que ça fait une éternité qu'il défend les propos qui sont les siens aujourd'hui. Il a viré sur l'aile, alors massivement, il y a 6 mois seulement. Donc les convictions d'Elon Musk, c'est généralement des convictions, moi je le connais bien, et je ne veux pas du reste être critique dans mes propos, j'essaie d'être le plus objectif possible, c'est parce que on doit toujours évidemment bien essayer d'interpréter, de comprendre les personnes qui sont en face de vous lorsque vous faites le travail que j'ai fait. Au fond, ce qui le motive, lui, c'est évidemment ses affaires, et j'allais dire, comme on dit aux États-Unis, son business. Donc il fallait qu'il se rapproche de Donald Trump quand il a vu que celui-ci avait des chances de gagner, il l'a aidé effectivement à gagner, et désormais, effectivement, il faut dire les choses également, il a parfaitement compris les régulations que nous avons mises en Europe. Je suis moi-même allé lui expliquer, y compris chez lui, y compris au Texas, avant même qu'il ne décide de racheter Twitter, qui est devenu X depuis. J'ai estimé que c'était mon devoir. Je l'ai fait du reste avec l'ensemble des dirigeants des grandes plateformes numériques qui allaient être régulées par nous en Europe, de bien lui expliquer quelles allaient être ses obligations s'il décidait d'acheter X.
Mais est-ce qu'il les respecte aujourd'hui?
Et non seulement il les a respectées, il les a comprises. On a même des films ensemble où il explique qu'il est très en soutien de tout ça. Donc il les comprend parfaitement.
Mais il ne les respecte pas. D'ailleurs, le DSA a ouvert une enquête depuis un an sur X.
C'était moi qui les ai ouvertes. Je suis bien placé pour le savoir.
Donc il ne les respecte pas.
Non. Je voudrais juste être précis sur ces questions. À partir du moment où on ouvre une enquête, et on en a ouvert, c'est public, donc je ne dévoile aucun secret d'eux, c'est parce qu'il y avait évidemment des suspicions qu'ils ne les respectaient pas. On rentre à ce moment-là dans un dialogue singulier avec ses équipes, c'est le cas. Maintenant, j'ai quitté la commission, je ne peux pas en parler, mais encore une fois, il sait parfaitement ce qu'il y a à faire. Alors, est-ce que ça le gêne? Oui, bien sûr que ça le gêne. Est-ce qu'il sent aujourd'hui qu'il a une possibilité de refragmenter l'Europe pour refaire ce qu'il veut? Bien entendu. Sauf que nous avons une loi.
Oui, mais
et que cette loi, il faut qu'elle s'applique.
Pour le dire très franchement, Thierry Breton, est-ce que cette loi, elle est adaptée? Là, ça fait un an que le DSA enquête sur X. On a l'impression qu'elle est très, par définition, elle prend son temps alors que Elon Musk lui avance. Ce DSA, au départ, il voulait réguler Internet en disant que ce n'était pas le Far West, qu'il fallait que ce soit comme dans la vraie vie. Il suffit d'ouvrir Twitter aujourd'hui pour voir que les règles ne sont pas respectées.
Bien sûr que cette loi s'applique. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé avec TikTok.
En Roumanie.
Non, d'abord, TikTok avait voulu lancer une version qu'ils appelaient TikTok Like, j'étais encore en charge, qui allait faire, pas moins, excusez du peu, faire en sorte que pour accroître l'addictivité du réseau TikTok, dont on connaît la nocivité pour nos enfants, en disant que plus vous passez d'heures sur TikTok, plus vous avez de points, et vous allez pouvoir acheter un certain nombre de choses avec les points que vous allez gagner par rapport au temps que vous allez passer sur TikTok. C'est évidemment contraire à la sécurité que nous voulons imposer sur les réseaux, et qui est un élément inhérent du DSA. Je suis donc rentré en contact immédiatement avec les équipes de TikTok. Elles ont retiré cette application. Ça s'applique tout de suite. Regardez ce qui s'est passé avec TikTok en Roumanie. Dès qu'on a vu qu'il y avait vraisemblablement une utilisation dérivée de TikTok pour pouvoir interférer pendant les élections, on a pu geler les données, intervenir, lancer une enquête immédiatement, geler les données. Ça a servi effectivement au Conseil constitutionnel en Roumanie pour pouvoir prendre les mesures dont on sait qu'elles ont conduit à l'annulation de l'élection. Donc bien entendu, si on veut, on peut. Donc on a l'outil, il est là, il faut l'appliquer. Alors tout en respectant, attention, il y a évidemment, on est un état de droit. Donc on respecte évidemment la discussion qu'il peut y avoir. Il y a des enquêtes qui ont été menées, elles peuvent prendre un certain temps, parce que vous savez, il faut aller voir dans ces enquêtes notamment comment les algorithmes ont été créés, est-ce qu'ils ont été modifiés, est-ce qu'ils poussent de façon arbitraire tel ou tel contenu. Ça peut prendre un certain temps, mais je le redis, on a fait exactement ce qu'il fallait faire dans cette loi, c'est la loi européenne. Je m'inscris totalement en faux contre ceux qui disent « Ah mais c'est pas assez, etc. » C'est la première loi mondiale, elle est très calibrée. Elle a été très étudiée, ça a pris 4 ans avec les meilleurs au monde pour pouvoir le faire, y compris dans nos forces démocratiques, donc bien sûr que la loi est là. Mais vous savez, c'est comme tout, avec Elon Musk, je l'ai pratiqué, il faut, c'est un peu, vous savez, il fait partie de ces individualités qui essayent en permanence d'avancer, et puis s'il n'y a pas de mur, ben, il continue d'avancer. Et bien voilà, quelque part, et je le dis, représentant précisément la nécessité d'incarner cette loi et de la mettre en place, j'étais ce mur. Au moment où je lui disais stop, il arrêtait. C'est très important d'avoir aussi cette dialectique, en particulier avec ce type d'individualité. Ils ne sont pas tous pareils, Dieu soit loué.
Vous étiez ce mur. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que vous avez quitté depuis 4 mois la Commission, est-ce que la Commission européenne est à la hauteur? Par exemple, cette question de Benjamin qui nous écrit de Marseille. Comment se fait-il que l'Europe réagisse si peu face aux déclarations et tentatives d'ingérence de Musk? Vous, en effet, vous l'avez dit sur Twitter que, par exemple, le fait qu'il soutienne l'AFD, le parti d'extrême droite allemand, était une forme d'ingérence. Il vous a répondu « Mec, l'ingérence américaine est la seule raison pour laquelle vous ne parlez pas allemand ou russe aujourd'hui ». Il s'en est pris également à Olaf Scholz, le chancelier allemand, en le traitant d'imbécile. Il a fait une avalanche de tweets et d'attaques contre Keir Starmer, le premier ministre britannique travailliste, dont un sondage « L'Amérique doit-elle libérer le peuple britannique de son gouvernement tyrannique ?» les utilisateurs du réseau ont répondu oui à 59%. Est-ce que ça rentre sous le coup du DSA? Et est-ce que l'Union européenne, la Commission européenne, est trop timide à vos yeux?
Alors, on va détricoter toutes vos questions. Parce que alors là, vous mettez 10 questions dans une phrase. Donc, je vais...
Non, la question, on peut vous la résumer. Est-ce que l'Europe doit être moins timide?
Je vais essayer de les détricoter.
D'accord.
Les détricoter. D'abord, je ne vais pas prendre position sur ce qui se passe aujourd'hui à la Commission, vous le comprendrez. Je ne suis plus commissaire et ce n'est pas mon rôle. En revanche, c'est mon rôle de citoyen de continuer à m'exprimer. Et lorsque, effectivement, vous faites allusion au tweet que j'ai fait, non pas pour lui, mais pour Madame
Alice Weidel, la candidate de ce parti, l'AFD, avec qui Elon Musk a eu une conversation jeudi.
Donc lorsque ça a été annoncé, je lui ai dit, écoutez, je m'adresse à vous en tant que simple citoyen, et vous allez bénéficier évidemment d'une opportunité tout à fait exceptionnelle par rapport aux concurrents, il faut bien en être conscient, et deuxièmement, votre interlocuteur doit respecter le DSA parce que vous utilisez un réseau qui lui-même est régulé. La parole, elle est libre. Elon Musk, il a le droit de dire ce qu'il veut. Pardon de vous le redire, y compris les éléments les plus choquants, et qui me choquent évidemment, comme beaucoup d'entre nous, parce qu'ils sont évidemment notamment totalement irrespectueux lorsqu'ils s'adressent directement à tel ou tel de nos chefs d'État élus et qui représentent l'intérêt général de leur pays. C'est extrêmement choquant, mais au fond, c'est un citoyen, il a le droit de le faire en tant que citoyen. Maintenant, s'il utilise une plateforme, un outil qui lui-même est régulé, alors il faut qu'il respecte les règles de la régulation pour le faire. Et cette régulation, je le redis, elle est là pour contrôler l'amplification massive qui peut être faite des propos. Donc, il faut bien faire la part des choses. Bien sûr, je suis comme vous tous, peut-être pour beaucoup d'entre nous, choqués sur la façon dont il s'exprime. Et au fond, au nom de quoi? Il est citoyen. Il mène un combat contre le Premier ministre britannique. Il mène un combat contre Olaf Scholz. En anglais, who's next? Qui sera le suivant? Bon. Maintenant, sur la Commission européenne, elle a encore une fois reçu délégation, c'est très important ce que je vais vous dire, si vous permettez. Elle a reçu délégation de la part des 27 États membres de se séparer un petit peu de leurs prérogatives, c'est-à-dire de contrôler ce qui se passe sur leur espace territorial propre, national, notamment pour préserver l'intégrité de nos démocraties pendant les élections. Et elle a décidé, ils ont décidé, ces 27, c'était la proposition du DSA, que pour les très grandes plateformes, celles dites systémiques, c'est-à-dire qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire 10% de la population européenne, alors il vaut mieux se mettre ensemble pour être plus fort, pour pouvoir réguler précisément sur l'ensemble de l'espace. Il faut donc évidemment que la Commission utilise ce pouvoir qui lui a été donné par les co-législateurs pour agir et agir vite, comme elle l'a fait sur TikTok en Roumanie.
D'ailleurs, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, va exactement dans votre sens. Il en appelle très solennellement à la Commission pour que sa main ne tremble pas. Et il a sous-entendu cette semaine sur France Inter que on pouvait potentiellement, si la Commission ne remplissait pas cette obligation, nous, France, bannir X.
Alors, il a dit deux choses. Il a dit d'abord, et c'est quelque part l'image inverse de ce que je viens de dire, on pourrait reprendre précisément cette prérogative que nous avons déléguée à la Commission européenne et la répliquer de façon nationale. Alors évidemment, je ne le souhaite pas parce que la loi est là, elle est très forte, elle est puissante et elle répond vraiment à nos besoins et on est plus fort ensemble. Et deuxièmement, il dit que effectivement, dans les sanctions qui sont prévues, si jamais une plateforme ne respecte pas les règles européennes, il y a une gradation de ces sanctions, c'est normal, ce sont des lois. La première, c'est 6% du chiffre d'affaires, donc des entreprises de l'entreprise qui pourrait être condamnée parce que elle n'a pas respecté ses obligations. Et ça peut faire des montants très significatifs. Et puis si jamais ça continue, oui, effectivement, dans la loi, il y a la possibilité de saisine d'un juge pour interrompre de façon temporaire l'exploitation du réseau en Europe tant que les problèmes qui ont été identifiés n'ont pas été corrigés.
Que peut-on anticiper en Europe de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche dans une dizaine de jours maintenant, le 20 janvier ?
Eh bien, une relation qui est une relation transactionnelle. Donald Trump est quelqu'un, je l'ai pratiqué, on l'a bien connu au cours des 4 premières années de son mandat, c'est quelqu'un qui a une relation avec les autres, y compris avec les États, transactionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que généralement, Il pousse le bouchon très loin. D'abord, il fait que du bilatéral. Il a horreur, évidemment, de l'Europe, tout simplement parce que l'Europe, on a l'air de dire « Ah, parce que c'est trop compliqué, etc. » Non, c'est pas trop compliqué. On est une très grande démocratie. On est la première démocratie du monde libre, j'aime à le rappeler. Une fois et demie plus grand en nombre d'habitants, pratiquement, que les États-Unis. Ils sont 340 millions, on est 450. Bien sûr, il y a la démocratie indienne, mais je la mets à part, si vous le permettez. Et donc, évidemment, on connaît beaucoup plus grand que les États-Unis. On est une très grande démocratie. Et on fonctionne sur des règles d'état de droit. Est-ce que ça plaît à Donald Trump? Visiblement, non. Alors, il semble dire, ou il veut dire, que c'est parce que c'est trop compliqué. Non. C'est parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de refragmenter l'Europe et d'avoir des relations bilatérales. Quand je dis transactionnel, ça veut dire je pousse le bouchon extrêmement loin. Par exemple, je dis, je vais envahir le Groenland. Et puis finalement, tout le monde est saisi d'effroi quand on entend ça, parce que c'était complètement inattendu de la part du principal allié des Européens, évidemment. Et puis peut-être qu'après ça, ça finira, finalement, ok, je vais pas l'envahir pendant 10 ans, mais en contrepartie, les droits de douane, ils passent de 20 à 25%. Et comme ça, tout le monde fait un bon deal. Vous gardez votre Groenland et je vous mets les droits de douane. C'est ça, la logique transactionnelle.
Et l'Europe, et soyons bien est armée face à ces rapports de force,
Soyons-en bien conscients. Prenons encore une fois le monde tel qu'il est. On est entouré aujourd'hui de continents qui n'aime pas le projet européen parce que évidemment il est structuré, il a une dynamique. On le voit évidemment à l'Est avec Poutine, on le voit plus loin encore avec Xi Jinping, et désormais on le voit aussi avec Donald Trump. Et il va falloir s'y adapter, mais pour ça, vous savez, il n'y a qu'une seule réponse, c'est leadership et unité. Je répète, leadership et unité.
France Culture, Sens Politique, Astrid de Villene.
Je crois qu'effectivement, lorsque l'on veut faire un livre dont le principal enjeu, c'est l'informatique, il vaut mieux être informaticien qu'être purement romancier. Car il est peut-être plus facile de devenir romancier en ayant suivi une formation d'informaticien que le contraire. Ceci dit, ce que j'ai voulu faire, effectivement, c'est faire un livre grand public pour expliquer aux lecteurs quels étaient les nouveaux enjeux de la révolution informatique. On en parle beaucoup, cette révolution, on ne sait pas ce que c'est. Il est vrai qu'aujourd'hui, nos enfants sont tous de plus en plus sensibilisés par ces nouvelles technologies et les parents sont un petit peu perdus. Alors ce que j'ai voulu faire, c'était faire un livre qui montre comment aujourd'hui l'informatique a pris une place tellement importante dans notre vie qu'elle est en train de dominer les enjeux et en particulier les enjeux des rapports Est-Ouest.
Vous vous souvenez de cette interview, Thierry Breton ?
Non, mais je crois avoir reconnu, difficilement, je vous l'accorde, celui qui tient ses propos.
C'est votre voix, le 16 août 1984, sur France 3 Le Mans, à l'occasion de la sortie de votre roman Software, La Guerre Douce. Et c'est un succès, ce livre, 100 000 exemplaires, traduits dans une dizaine de langues qui anticipent déjà la guerre informatique. Au même moment, pourtant, vous allez vous engager en politique. Vous avez hésité à avoir une carrière d'écrivain, d'intellectuel, avant ?
J'ai écrit plusieurs livres, j'ai pas eu une carrière d'écrivain, ni d'homme politique, ni de chef d'entreprise. C'est le hasard de la vie, au fond. J'ai construit ma vie, je peux dire, elle est construite, puisque maintenant elle est plus derrière moi que devant moi. J'aimerais presque dire avec quatre axes qui se sont révélés progressivement d'eux-mêmes. Le premier, c'est la formation et l'éducation. J'ai toujours été passionné par l'enseignement. Et j'ai toujours fait de l'enseignement. D'abord, j'ai fait mon service militaire comme professeur de mathématiques et d'informatique au lycée français de New York. Et puis, j'ai enseigné aussi dans des universités.
À Harvard.
Oui, mais avant.
Vous avez été élu professeur préféré des élèves.
Oui, c'est vrai. Mais avant ça, même dans des écoles d'ingénieurs informatiques, je le faisais pour payer mes études. En tant que président aussi de l'université de technologie 3, j'ai toujours eu cette passion. Alors, c'est l'un des axes. Il y a un deuxième axe, c'est quand on a la passion de la formation. L'éducation, c'est de la pédagogie, c'est évidemment d'expliquer. Et donc, comme j'étais effectivement, je me suis trouvé, à la croisée de ces nouveaux chemins qui s'ouvraient avec l'avènement de l'informatique, comme le révèle cette archive que vous venez de diffuser, et que j'avais cette conscience de ce que ça allait changer, j'ai souhaité écrire des romans pour expliquer ces trois romans, celui-ci, Software, j'ai expliqué en 84 comment on pouvait avoir des nouvelles perturbations dans les ordinateurs qui allaient tout régenter, et c'est le premier livre effectivement qui a explicité la notion de virus informatique. J'en ai écrit un autre ensuite qui était un roman qui s'appelait en anglais The Pentecost Project, Vatican III en français, en mettant en évidence, un an plus tard, l'avènement de communautés et le rôle de l'intelligence artificielle qui pouvait tout perturber. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et puis le troisième, Network, c'était au fond, comment allons-nous régenter, celui-là était en 88, comment pouvions-nous régenter un monde basé sur des états de droit fondés sur les états-nations, alors qu'une nouvelle génération de futurs milliardaires allait s'emparer de ces technologies pour essayer de régenter la planète. On était en 88, voilà.
Ensuite, vous j'ai écrit d'autres... Vous êtes brouillé quand même avec votre co-auteur, Denis Baldwin, pour Software. Il a dit dans Libé... Il a fait la promo tout seul, c'est moi qui ai tout écrit, j'ai fait un procès que j'ai gagné.
Voilà, c'est la vie, c'est un livre parmi neuf. J'ai écrit aussi des essais ensuite, et je pense que c'est important aussi d'avoir peut-être ce mode, le roman en tout cas, j'ai trouvé que c'était intéressant effectivement, parce que ça permettait au lecteur de rentrer plus facilement, de s'approprier plus facilement ce que je ressentais moi-même.
Alors c'est à ce moment-là, dans les mêmes années, les années 80, que vous vous engagez en politique au conseil régional de Poitou-Charentes, sous René Monory, qui sera une sorte de mentor pour vous. Il vous a d'ailleurs dit, en politique, il faut prendre la place, sinon on est mort. Et c'est avec lui que vous allez concevoir le Futuroscope de Poitiers. Ça s'inscrit aussi dans ce parcours de...
C'est la raison pour laquelle je suis rentré en France, puisque j'avais créé ma société aux États-Unis. Et je suis rentré en France, effectivement, après cette rencontre.
Comment naît l'idée du Futuroscope,
D'abord, c'était son idée, c'était l'idée de René Monory. Il voulait faire quelque chose, il avait le sentiment, il avait l'instinct... Que précisément on était en 83, les technologies de l'information allaient bouleverser notre façon de produire, notre façon d'enseigner, notre façon de nous distraire, et il voulait faire quelque chose dans son département. On était, il faut se souvenir que c'était le début de la décentralisation, redonner du pouvoir effectivement aux collectivités locales. Il était président du conseil général de la Vienne. Il voulait faire quelque chose, il n'avait pas une idée très précise. On s'est rencontrés, il m'a proposé de venir. Moi, je connaissais pas du tout la Vienne, je dois le dire. J'étais allé quelques fois, évidemment, mais je la connaissais mal. Il m'a accueilli et puis je m'y suis installé et j'ai fait à ses côtés pendant 5, 6, 7 ans effectivement le Futuroscope, dont j'étais le chef du projet. C'était un projet formidable et pour moi très important parce que c'était un formidable patron, René Monory, à la fois un patron, un entrepreneur, et c'était aussi son parcours. Mais c'était un formidable homme politique et j'ai appris clairement, je crois, la politique à ses côtés et les rapports de force. C'était un terme qu'il utilisait très souvent et il avait raison.
Alors un peu plus tard, on l'a parfois oublié, vous avez pris la tête de France Télécom de 2002 à 2005. Ensuite, vous allez au ministère de l'économie et vous préparez cette privatisation, j'allais dire dans les deux rôles. Est-ce que ça, c'est pas un peu mélange des genres, Thierry Breton ?
Ah non, pas du tout, parce que la privatisation de France Télécom, elle était faite avant.
Ah d'accord.
Eh oui.
Et comment avez-vous vécu le scandale qui a touché France Télécom juste après, puisqu'en fait vous êtes le prédécesseur de Didier Lombard, qui sera condamné pour harcèlement institutionnel avec toute cette vague de suicides. Ça a dû... Comment vous l'avez vécu, ça, vous,
non,
qui
vous
avez
savez,
connu l'entreprise juste avant?
Bah, vous savez, évidemment, quand l'entreprise, deux ans après mon départ, a été secouée par cette vague, effectivement, qui a meurtri le corps social, évidemment, j'en étais très 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 meurtri moi-même, mais voilà, il faut poser la question à ceux qui m'ont succédé. C'était évidemment un moment qui a été douloureux pour tout le monde.
Il y a beaucoup dans la presse de critiques sur votre gestion, parfois pas assez sociale, notamment chez Atos. Après France Télécom, Thierry Breton passe Atos à l'essoreuse, disait le Nouvel Obs en 2011. Le CHSCT de l'époque s'était inquiété pour la santé des salariés. Aujourd'hui, dans Libé, une députée socialiste européenne dit que vous n'êtes pas très social.
Oui, bah écoutez, vous savez, quand on a le parcours que l'on a et quand on a l'âge qu'on a, vous avez des amis, vous avez des ennemis, c'est la vie. Je ne me reconnais pas du tout dans cela. Je pourrais évidemment, mais je ne le ferai pas parce que c'est pas mon rôle. Et vous citez bien des cas contraires. Maintenant, chacun est libre de son expression. Souvent, du reste, les uns et les autres sont dans leur rôle en essayant de le faire. Mais que ce soit du reste, lorsque j'étais président de France Télécom, j'ai toujours évidemment eu des relations extrêmement étroites et positives avec les syndicats. C'était le cas chez Thomson, c'était le cas aussi chez Atos. Après, les uns et les autres sont libres de s'exprimer comme ils le veulent. Et c'est aussi la démocratie.
Quel bilan faites-vous? C'est Mickaël qui vous pose cette question sur Instagram. Quel bilan faites-vous 20 ans plus tard de la privatisation des autoroutes? Ça, je crois que vous l'avez géré comme ministre de l'économie, ou je me trompe?
Mais c'était très simple. C'était quand je suis arrivé, il y avait une aberration totale. L'aberration, c'est que mes prédécesseurs, je crois que c'était Laurent Fabius, avaient coté en bourse dans les entreprises d'exploitation des autoroutes. Coté en bourse. Donc c'était quand même surprenant. Et donc il y avait deux possibilités. C'était surprenant parce que l'État était devenu schizophrène. Il était massivement coté en bourse. Il y avait 50% en public et un peu moins qu'à l'État. Et au fond, l'État était à la fois jugé parti, il était à la fois actionnaire et il devait également réguler. Et donc, on peut pas à la fois être actionnaire d'un système aussi régulé et à la fois, donc, en tant qu'actionnaire, espérer d'avoir des profits, des dividendes et d'un autre côté, réguler. Donc, j'avais dit, c'est une aberration. Je sais pas pourquoi on a coté en bourse les sociétés d'autoroute. Donc, il faut soit les renationaliser, parce que ça n'a aucun sens, soit il faut totalement les privatiser, mais mettre à la place, à côté, un régulateur qui va imposer des règles extrêmement fortes. Alors, comme on n'avait pas d'argent, parce que je me préoccupais déjà du désendettement de la France, on s'est dit, on va, à ce moment-là, le remettre complètement dans la main du privé, avec à côté un régulateur très fort, comme on le fait dans beaucoup de domaines. C'est le cas, évidemment, des télécoms et d'autres secteurs maintenant, l'exploitation de l'eau, etc. De façon à ce que on puisse, évidemment, puisqu'on n'a pas les moyens de tout réimpatrier, donc on a fait les deux options. Après ça, il faut interroger, effectivement, c'est la vie, j'ai quitté le gouvernement. On a mis 3 ans à mettre l'instance de régulation des autoroutes en place. Heureusement, maintenant, c'est mis. Et c'est vrai que ce flottement a été sans doute un peu préjudiciable. Mais voilà, vous voyez, quand on est ministre, il faut prendre des décisions. On peut pas laisser une situation comme ça, qui n'avait strictement aucun sens. Côté en bourse, l'exploitation des autoroutes, c'était une aberration, sans qu'il y ait d'instruments de régulation à côté. C'est la vie des ministres, il faut prendre des choix. Mais vous savez, on est dans un monde où les régulations sont très importantes. Ça nous renvoie à la discussion que nous venons d'avoir. Je suis pour mettre des régulations fortes. C'est très important en matière de gouvernance. Je l'ai enseigné à Harvard. Voilà, il faut que tous ceux qui soient aux commandes aujourd'hui aient cette conscience aiguë du rôle important des instances de régulation. Alors, en l'occurrence, à l'époque, y compris pour les autoroutes.
Alors, Thierry Breton, il faut que vous nous racontiez ce qu'il s'est passé avec Ursula von der Leyen. Vous avez eu un conflit ouvert l'année dernière, qui a conduit à votre démission fracassante le 16 septembre. Que s'est-il passé? Est-ce que c'était des conflits interpersonnels? Est-ce que c'était des histoires de politique? Quelle est votre version?
Alors d'abord, je n'ai jamais eu de conflit avec Ursula von der Leyen,
ni avec quiconque. Du 7 mars, où vous la critiquiez parce qu'elle avait été mise en minorité par son propre parti.
Madame, si vous permettez.
Oui.
Cette émission est une émission où il faut être sérieux. Le tweet auquel vous faites référence, c'est le seul point de divergence que j'ai eu avec elle, où elle n'est pas critiquée. On va le reprendre très exactement pour que vos auditeurs l'entendent. Malgré ses qualités, c'est pas une critique ça, Madame von der Leyen vient d'être élue Spitzenkandidat de son parti avec 400 voix sur 801 votants. C'est donc pas un bon signe que lui font ses votants. C'est pas une critique, madame. C'est tout simplement un point, qui est le seul point de désaccord que j'ai eu, qui était le fait que, de désaccord en tout cas, où j'estimais que ce n'était peut-être pas totalement conforme à l'intérêt général porté par les traités européens. C'était le point de dire que lorsqu'on veut se représenter, et qu'on a été président de la Commission, c'est parfaitement son droit. Et c'est pas mal du reste, parce que ça donne de la continuité, ça donne de la profondeur. Deux des prédécesseurs de Mme von der Leyen l'ont fait. Monsieur Delors et Monsieur Barroso. À chaque fois, ils ont veillé à maintenir une neutralité. Parce que précisément, y compris pendant la période des élections européennes qui s'ouvraient préalablement à l'installation de la nouvelle commission, parce que précisément après, il faut faire travailler toutes les forces ensemble. Dans ce cas d'espèce, et pour la première fois dans nos institutions, le PPE, qui est le parti de Madame von der Leyen, les démocrates, c'est la CDU allemande en particulier, donc qui sont essentiellement le centre-droit, on va dire. Le PPE a demandé à ce que Madame von der Leyen, pour la première fois dans nos institutions, soit à la fois président de la commission, mais aussi chef de parti.
Mais pourquoi vous avez quitté la commission ?
Et donc, non, mais c'est une autre question.
Question.
Non, attendez, oui, mais je finis, si vous permettez, sur ce point. Et donc, vous me demandez, vous avez eu des différences. C'est la seule différence que j'ai eue avec elle.
C'est pas une différence sur le
fond ? Non, c'est la différence politique.
Parfois, on lit que vous la trouviez trop atlantiste, sur les voitures thermiques que vous avez pu vous
Mais ça, c'est la vie, évidemment, d'un collège.
Alors, je vous donne cette question de Vincent. Peut-être qu'elle sera plus claire.
On s'exprime, voyez-vous, on s'exprime, et c'est normal. La différence politique.
Mais le résultat, c'est que vous n'êtes plus à la commission.
Oui, alors maintenant, c'est la vraie raison, si vous le permettez, c'est qu'effectivement, alors que le président de la République avait demandé à ce que je sois évidemment renouvelé, c'était parfaitement légitime et c'est comme les traités l'autorisent. Quelques jours avant l'annonce de la nouvelle commission, Madame von der Leyen a demandé à appeler le président de la République et lui a dit ou bien c'est Thierry, mais ce sera plus petit portefeuille, si j'ai bien compris, parce qu'il est trop puissant et voilà. Ou bien c'est pas Thierry, il y aura un plus grand portefeuille. Et voyez-vous, madame, quand j'ai appris ça, je n'ai pas voulu que la France rentre dans cette dialectique. Et donc j'ai préféré en tirer moi-même les conclusions, plutôt que d'attendre à ce que l'on choisisse quelque chose qui pour moi était contraire et à l'esprit des traités et à l'esprit de l'intérêt général. Donc j'ai démissionné avant même que le président de la République ne se prononce, et la présidente aussi de la Commission, parce que j'estime que si on raisonne comme ça, on n'est pas dans le respect des règles de gouvernance. J'ai donc estimé que je ne voulais pas être celui qui créerait cette distorsion qui me semblait néfaste pour nos institutions. J'en ai tiré les conclusions, moi-même, moi tout seul, et il n'y a rien d'autre à dire.
Pensez-vous que nous réussirons à trouver une minorité de blocage sur le traité de libre-échange avec le Mercosur signé par Ursula von der Leyen ?
On verra bien.
Sens politique, l'archive de l'invité.
Merci pour cet extrait, Thierry Breton. Tabula Rasa du compositeur estonien Arvo Pärt, ici interprété par Ji Yoon Park, Marc Démon et l'Orchestre Philharmonique sous la direction de Christina Posca. Un concert enregistré le 13 mars 2024, ici à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique, juste en dessous, disponible encore sur la chaîne YouTube de nos amis de France Musique. Ça vous émeut cet extrait ?
Non seulement ça m'émeut, mais bon, Arvo Pärt est un immense compositeur estonien. Et cette œuvre, Tabula Rasa, oui, elle me touche beaucoup. Elle me touche parce que, quelque part, elle est un peu en reflet des propos que nous venons de tenir ensemble au cours de cette heure. J'ai toujours été fasciné, mobilisé, intéressé, passionné par l'impact des technologies, des révolutions technologiques sur notre société. Je pense que nous, en Europe, nous sommes le seul continent qui essayons de chercher à comprendre l'évolution de ces technologies, à les intégrer dans nos règles d'état de droit, dans nos règles démocratiques, dans nos règles sociales. Et voyez-vous, il y a une dimension dans laquelle dont on n'a pas parlé, qui pour moi est absolument essentielle, c'est aussi une de mes passions, c'est la physique quantique et l'impact que la compréhension intime de ce que la physique quantique va apporter comme révolution, on en vit déjà, mais ça va être absolument majeur, me semble-t-il, dans les décennies à venir, va nous apporter. Dans la physique quantique, on parle beaucoup des particules qui sont ici ou là, qu'on ne peut pas voir, qui sont à la fois ici et ailleurs, avec notamment l'intrication. Vous voyez ces plages de temps où on entend le vide dans cette œuvre. Pour moi, c'est une image extrêmement forte de ce qu'est aussi la physique quantique, un vide plein de sens.
Qu'est-ce que ça voulait dire quand vous êtes sorti de Supélec en 1979 d'être diplômé en génie informatique ?
Bien, j'étais très très intéressé par les mathématiques, j'adorais les mathématiques, et à l'époque, on était au tout début de l'informatique, et on faisait un lien assez fort entre les mathématiques et l'informatique, et pour moi, c'était donc quelque part une application plus concrète de ce que les mathématiques poussées à l'extrême pouvaient créer pour la société, pour les hommes, ça m'intéressait.
Est-ce que Atos aurait pu devenir ce géant de la tech dont on manque en Europe par rapport aux États-Unis.
Atos l'était de façon incontestable. Atos a été créé parce que précisément on avait anticipé qu'il fallait des centres de données massifs pour stocker les données, des supercalculateurs pour entraîner l'intelligence artificielle, de la cybersécurité. On a créé ce géant en 11 ans, pas à pas,
sans endettement.
Car j'ai toujours refusé l'endettement. Lorsque je suis parti un an après, il n'y avait pas d'endettement net. Et puis voyez-vous, deux ans après mon départ, du reste, Atos a continué à progresser malgré la crise du Covid. Je crois que tout le monde a vu que il y a eu une tentative de racheter à ce moment-là Hewlett-Packard. C'était pas rien quand même. Ça a été très mal perçu par les marchés. Le titre a commencé à dévisser. Et puis il y a eu malheureusement le directeur général qui était formidable a dû quitter l'entreprise, peut-être parce que les marchés n'étaient pas contents, même si ce n'était pas sa faute de ce qui s'était passé. Après, je crois, 6 ou 7 directeurs généraux en 4 ans, une entreprise a besoin de stabilité.
Est-il vrai
Mais je n'ai pas d'autres commentaires à faire, bien entendu, parce que je n'étais plus là.
Est-il vrai, Thierry Breton, que vous écrivez de la poésie à vos heures perdues ?
C'est vrai.
Qui est votre poète préféré ?
J'en ai beaucoup.
Une dernière question. Dans deux semaines, nous recevrons Clara Chapaz, secrétaire d'État à l'intelligence artificielle. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un portefeuille comme ça dans un gouvernement. Vous auriez une question à lui poser ?
Je crois qu'il faut être très attentif à ce que l'ensemble des régulations que nous avons mises en place, et notamment aussi au niveau de notre démocratie européenne, soient maintenant dûment appliquées. C'est très important, ça nous permet de préserver l'innovation, de donner des lignes directrices pour que l'innovation puisse s'inscrire pleinement dans le sens de l'intérêt général et de nos valeurs démocratiques.
Merci Thierry Breton, ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie, d'être venu dans Sens Politique. Vous pouvez réécouter cette émission comme toutes les autres sur franceculture.fr et sur l'application Radio France à la page Sens Politique. Merci à Léa Varin qui m'a aidé à préparer cette émission, à la réalisation Luc-Jean Reynaud, à la technique Élise Leu et Paul Guigues, à la vidéo Ruben Carmazine. À samedi.